Histoire de la Réformation du XVIe siècle, livre 7, chapitre 6. Courage de Luther, Bugenhagen à Wittenberg, persécution en Poméranie, Melanchthon veut partir avec Luther, Amsdorf, Schurf, Suaven, Utten à Charles Quint, prière au nom de l'Allemagne. C'était le 24 mars. Enfin, le héros impérial avait passé les portes de la ville où se trouvait Luther. Gaspard Sturm se présenta chez le docteur et lui remit la sommation de Charles Quint. Moment grave et solennel pour le réformateur. Tous ses amis étaient consternés. Aucun prince, sans accepter Frédéric, le sage, ne s'était encore déclaré pour lui. Les chevaliers, il est vrai, faisaient entendre des menaces, mais le puissant Charles les méprisait. Luther, cependant, ne fut point troublé. « Les papistes, dit-il en voyant l'angoisse de ses amis, ne désirent pas ma venue à Worms, mais ma condamnation et ma mort. N'importe, priez non pour moi, mais pour la parole de Dieu. Mon sang n'aura point encore perdu sa chaleur, que déjà des milliers d'hommes dans tout l'univers seront rendus responsables de l'avoir versé. Le très saint adversaire de Christ, le Père, le Maître, le généralissime des homicides, insiste pour le répandre. Amen. Que la volonté de Dieu s'accomplisse. Christ me donnera son esprit pour vaincre ses ministres de l'erreur. Je les méprise pendant ma vie et j'en triompherai par ma mort. On s'agite à Worms pour me contraindre à me rétracter, et voici quelle sera ma rétractation. J'ai dit autrefois que le pape était le vicaire de Christ. Maintenant, je dis qu'il est l'adversaire du Seigneur et l'apôtre du diable. » Et quand il apprit que toutes les chaires des franciscains et des dominicains retentissaient d'imprécations et de malédictions contre lui, « Oh, quelle merveilleuse joie j'en éprouve » s'écria-t-il. Il savait qu'il avait fait la volonté de Dieu et que Dieu était avec lui. Pourquoi donc ne partirait-il pas avec courage ? Cette pureté de l'intention, cette liberté de la conscience est une force cachée mais incalculable qui ne manque jamais aux serviteurs de Dieu et qui le rend plus invincible que ne pourraient le faire toutes les cuirasses et toutes les armées. Luther vit alors arriver dans Wittenberg un homme qui devait être comme Melanchthon, l'ami de toute sa vie et qui était destiné à le consoler au moment de son départ. C'était un prêtre de 36 ans, nommé Bugenhagen, qui fuyait les rigueurs dont l'évêque de Camin et le prince Bogislas de Poméranie poursuivaient les amis de l'Évangile, ecclésiastiques, bourgeois ou lettrés. D'une famille sénatoriale, née à Volin, en Poméranie, d'où on l'a appelé communément Poméranus, Bugenhagen enseignait depuis l'âge de 20 ans à Treptow. Les jeunes accouraient pour l'entendre, les nobles et les savants se disputaient sa société. Il étudiait assidûment les saintes lettres, suppliant Dieu de l'instruire. Un jour, c'était vers la fin de décembre 1520, on lui remit, comme il était à souper avec plusieurs amis, le livre de Luther sur la captivité de Babylone. « Depuis que Christ est mort, dit-il, après l'avoir parcouru, bien des hérétiques ont infesté l'Église. » Mais il n'exista jamais une peste semblable à l'auteur de ce livre. Ayant emporté le livre chez lui, l'ayant lu et relu, toutes ses pensées changèrent. Des vérités toutes nouvelles se présentèrent à son esprit, et étant retourné quelques jours après vers ses collègues, il leur dit « Le monde entier est tombé dans les plus obscures ténèbres. Cet homme seul voit la vérité. » Des prêtres, un diacre, l'abbé lui-même, reçurent la pure doctrine du salut et bientôt, prêchant avec puissance, ils amenèrent leurs auditeurs, dit un historien, des superstitions humaines au mérite seul puissant de Jésus-Christ. Alors la persécution éclata. Déjà plusieurs gémissaient dans les prisons. Bugenhagen se déroba à ses ennemis, mais nul ne reçut Bugenhagen avec autant de joie que Luther. il fut convenu entre eux qu'aussitôt après le départ du réformateur, Bugenhagen commencerait à expliquer les psaumes. C'est ainsi que la providence divine amena alors cet homme puissant pour remplacer en partie celui que Wittenberg allait perdre. Placé un an plus tard à la tête de l'église de cette ville, Bugenhagen la présida durant 36 ans. Luther le nommait par excellence le pasteur. Luther devait partir. Ses amis, alarmés, pensaient que si Dieu n'intervenait par un miracle, c'était à la mort qu'il marchait. Mélenchon, éloigné de sa patrie, s'était attaché à Luther avec toute l'affection d'une âme tendre. « Luther, disait-il, me tient lieu de tous mes amis. Il est pour moi plus grand, plus admirable que je ne puis le dire. Vous savez combien Alcibiade admirait son Socrate, mais c'est autrement encore que j'admire Luther, car c'est en chrétien. » Puis il ajoutait cette parole si belle et si simple, « Chaque fois que je le contemple, je le trouve de nouveau plus grand que lui-même. » Mélenchon voulait suivre Luther dans ses dangers, mais leurs amis communs, et sans doute le docteur lui-même, s'opposèrent à ce désir. Philippe ne devait-il pas remplacer son ami? Et si celui-ci ne revenait jamais, qui dirigerait alors l'œuvre de la réforme? Ah, plût à Dieu, dit Mélenchon, résigné mais chagrin, qu'il m'eût été permis de partir avec lui. Le véhément Amsdorff déclara aussitôt qu'il accompagnerait le docteur. Son âme forte trouvait plaisir à s'exposer au danger. Sa fierté lui permettait de paraître sans crainte devant une assemblée de rois. L'électeur avait appelé à Wittenberg comme professeur de droit un homme célèbre, d'une grande douceur, fils d'un médecin de Saint-Gall, Jérôme Schurf, qui vivait avec Luther dans une grande intimité. « Il n'a pas encore pu se résoudre, disait Luther, à prononcer la sentence de mort contre un seul malfaiteur. » Cet homme timide désira néanmoins assister le docteur en qualité de conseil dans ce voyage dangereux. Un jeune étudiant danois, Pierre Suaven, qui logeait chez Mélenchon, célèbre plus tard par ses travaux évangéliques en Poméranie et en Danemark, déclara aussi qu'il accompagnerait son maître. La jeunesse des écoles devait être représentée à côté du champion de la vérité. L'Allemagne était émue à la pensée des périls qui menaçaient le représentant de son peuple. Elle trouva alors une voix digne d'elle pour exprimer ses craintes. Ulrich de Hutten tressaillit à la pensée du coup dont la patrie allait être frappée. Il écrivit le 1er avril à Charles Quint lui-même. « Très excellent empereur, dit-il, vous êtes sur le point de nous perdre et vous-même avec nous. Que se propose-t-on dans cette affaire de Luther si ce n'est de détruire notre liberté et d'abattre votre puissance ? Il n'y a pas dans toute l'étendue de l'Empire un homme juste qui ne porte à cette affaire l'intérêt le plus vif. Les prêtres seuls s'élèvent contre Luther parce qu'il s'est opposé à leur puissance excessive, à leur luxe honteux, à leur vie dépravée et qu'il a plaidé pour la doctrine de Christ, pour la liberté de la patrie et pour la sainteté des mœurs. Ô empereur, éloignez de votre présence ces orateurs de Rome, ces évêques, ces cardinaux qui veulent empêcher toute réforme. N'avez-vous pas remarqué la tristesse du peuple en vous voyant, à votre arrivée, vous approcher du Rhin, entouré de ces gens à chapeau rouge d'un troupeau de prêtres et non d'une cohorte de vaillants guerriers? Ne livrez pas votre majesté souveraine à ceux qui veulent la fouler aux pieds. Ayez pitié de nous. N'entraînez pas dans votre ruine la nation tout entière. Conduisez-vous au milieu des plus grands périls, sous les glaives des soldats, sous les bouches de feu, que toutes les nations conspirent contre nous, que toutes les armées nous assaillent, en sorte que nous puissions montrer ouvertement notre valeur, plutôt que d'être ainsi vaincus et asservis, obscurément et en cachette, comme des femmes sans armes et sans combat. Ah, nous espérions que ce serait vous qui nous délivreriez du joug des Romains et qui renverseriez la tyrannie pontificale. Dieu fasse que l'avenir vaille mieux que ses commencements. L'Allemagne tout entière tombe à vos genoux, elle vous supplie avec larmes, elle implore votre secours, votre compassion, votre fidélité et par la sainte mémoire de ces Germains qui, lorsque le monde entier était soumis à Rome, ne baissèrent point la tête devant cette ville superbe, elle vous conjure de la sauver, de la rendre à elle-même, de la délivrer de l'esclavage et de la venger de ses tyrans. Ainsi parlait à Charles Quint la nation allemande, par l'organe du chevalier. L'empereur n'y fit pas attention et jeta probablement avec dédain cette épître à l'un de ses secrétaires. Il était flamand et non germain. Sa puissance personnelle et non la liberté et la gloire de l'Empire était l'objet de tous ses désirs. Livre 7, chapitre 7. Adieu de Luther, on affiche sa condamnation, cavalcade près d'Erfurt, rencontre de Jonas avec Luther, Luther dans son ancien couvent, Luther prêche à Erfurt, incident, foi et œuvre, concours du peuple et courage de Luther, Luther à Spalatin, séjour à Francfort, crainte à Worms, plan des impériaux, fermeté de Luther, entrée dans Worms. Le 2 avril était arrivé. Luther devait prendre congé de ses amis. Après avoir annoncé à l'ange par un billet qu'il passerait le jeudi ou le vendredi suivant à Erfurt, il dit adieu à ses collègues. Se tournant vers Mélenchon, « Si je ne reviens pas, lui dit-il d'une voix émue, et que mes ennemis me mettent à mort, ô mon frère, ne cesse pas d'enseigner et demeure ferme dans la vérité. Travaille à ma place, puisque je ne pourrai plus travailler moi-même. Si tu vis, peu importe que je périsse. » Puis, remettant son âme entre les mains de celui qui est fidèle, Luther monta dans son char et quitta Wittenberg. Le conseil de la ville lui avait fourni une voiture modeste, recouverte d'une toile que les voyageurs pouvaient mettre ou ôter à volonté. Le héros impérial, revêtu de ses ornements et portant l'aigle de l'Empire, était à cheval en avant, suivi de son domestique. Puis venaient Luther, Schurf, Amsdorf et Suaven dans leur char. Les amis de l'Évangile, les bourgeois de Wittenberg, émus, invoquant Dieu, fondaient en larmes. Ainsi partit Luther. Il remarqua bientôt que de sinistres pressentiments remplissaient les cœurs de ceux qu'il rencontrait. À Leipzig, on ne lui rendit aucun honneur et l'on se contenta de lui présenter le vin d'usage. À Nombourg, il rencontra un prêtre, probablement J. Langer, homme d'un zèle sévère, qui gardait soigneusement dans son cabinet le portrait du fameux Jérôme Savonarola de Ferrare, brûlé en 1498 à Florence, par ordre du pape Alexandre VI, comme martyr de la liberté et de la morale, aussi bien que comme confesseur de la vérité évangélique. Ayant pris le portrait du martyr italien, le prêtre s'approcha de Luther et le lui tendit en silence. Celui-ci comprit ce que cette image muette lui annonçait. Mais son âme intrépide demeura ferme. « C'est Satan, dit-il, qui voudrait empêcher par ses terreurs que la vérité ne fût confessée dans l'assemblée des princes, car il prévoit le coup que cela va porter à son règne. Demeure fermement en la vérité que tu as reconnue, lui dit alors gravement le prêtre, et ton Dieu demeurera aussi fermement avec toi. » Ayant passé la nuit à Nombourg, où le bourgmestre l'avait reçu avec hospitalité, Luther arriva le lendemain au soir à Weimar. À peine y était-il depuis un instant qu'il entendit des cris de toutes parts. C'était sa condamnation qu'on annonçait. « Voyez, lui dit le héros. » Il regarda, et ses yeux, étonnés, aperçurent des messagers impériaux parcourant la ville et affichant partout l'édit de l'empereur qui prescrivait de remettre au magistrat ses écrits. Luther ne douta pas qu'on étalât à l'avance ses rigueurs pour le retenir par la crainte et ensuite le condamner comme ayant refusé de comparaître. « Eh bien, monsieur le docteur, voulez-vous continuer ?» dit le héros impérial, effrayé. « Oui, répondit Luther, quoique mis à l'interdit dans toutes les villes, je continuerai. Je me repose sur le sauf-conduit de l'empereur. » Luther eut à Weimar une audience du duc Jean, frère de l'électeur de Saxe, qui y résidait alors. Le prince l'invita à prêcher. Il y consentit. Des paroles de vie s'échappaient du cœur ému du docteur. Un moine franciscain qui l'entendit, Jean Voix, l'ami de Frédéric Myconius, fut alors converti à la doctrine évangélique. Il quitta le couvent 2 ans après et devint plus tard professeur de théologie à Wittenberg. Le duc donna à Luther l'argent nécessaire pour son voyage. De Weimar, le réformateur se rendit à Erfurt. C'était la ville de sa jeunesse. Il espérait y voir son ami l'ange, si, comme il le lui avait écrit, il n'y avait pas de danger à entrer dans la ville. Il en était encore à 3 ou 4 lieues, près du village de Nora, quand il vit paraître dans le lointain une troupe de cavaliers. Était-ce des amis? Était-ce des ennemis? Bientôt, Crotus, recteur de l'université, et Eubanus S., l'ami de Mélenchon, que Luther appelait le roi des poètes, Euricius Cordus, Jean Draco, d'autres encore au nombre de 40, membres du Sénat, de l'université, de la bourgeoisie, tous à cheval le saluent avec acclamation. Une multitude d'habitants d'Erfurt couvre le chemin et fait éclater sa joie. On était avide de voir l'homme puissant qui avait osé déclarer la guerre au pape. Un jeune homme de 28 ans, nommé Juste Jonas, avait devancé le cortège. Jonas, après avoir étudié le droit à Erfurt, avait été nommé recteur de l'université en 1519. Éclairé par la lumière évangélique qui se répandait alors de toutes parts, il avait conçu le désir de devenir théologien. « Je crois, lui écrivit Érasme, que Dieu t'a élu comme un organe pour faire briller la gloire de son fils Jésus. » Toutes les pensées de Jonas étaient portées sur Wittenberg, sur Luther. Quelques années auparavant, n'étant encore qu'étudiant en droit, Jonas, d'un esprit prompt et entreprenant, était parti à pied, accompagné de quelques amis, et avait traversé, pour arriver jusqu'à Érasme, alors à Bruxelles, des forêts infestées de voleurs et des villes ravagées par la peste. N'affrontera-t-il pas maintenant d'autres dangers pour accompagner à Worms le réformateur? Il lui demanda vivement de lui accorder cette faveur. Luther y consentit. Ainsi se rencontrèrent ces deux docteurs qui devaient travailler ensemble toute leur vie à l'œuvre du renouvellement de l'Église. La Providence divine groupait autour de Luther les hommes destinés à être la lumière de l'Allemagne, les Mélenchon, les Hamsdorff, les Bugenhagen, les Jonas. À son retour de Worms, Jonas fut nommé prévôt de l'Église de Wittenberg et docteur en théologie. Jonas, disait Luther, est un homme dont il faudrait acheter la vie à grand prix pour le retenir sur la terre. Aucun prédicateur n'avait reçu comme lui le don de captiver ses auditeurs. Pomeranus est exégète, disait Mélenchon. Moi, je suis dialecticien. Jonas est orateur. Les paroles découlent de ses lèvres avec une admirable beauté et son éloquence est pleine de force. Mais Luther nous surpasse tous. Il paraît qu'à peu près vers le même temps, un ami d'enfance et un frère de Luther vinrent encore augmenter son escorte. La députation d'Erfurt avait tourné bride. Cavaliers et gens à pied, entourant la voiture de Luther, entrèrent dans les murs de la ville. À la porte, sur les places, dans les rues, où le pauvre moine avait si souvent mendié son pain, la foule des spectateurs était immense. Luther descendit au couvent des Augustins où l'Évangile avait consolé son cœur. L'ange le reçut avec joie. Hüssingen et quelques-uns des pères les plus âgés lui témoignèrent beaucoup de froideur. On désirait l'entendre. La prédication lui était interdite, mais le héros, entraîné lui-même, céda. Le dimanche après Pâques, l'église des Augustins d'Erfurt était remplie d'une grande foule. Ce frère qui autrefois ouvrait les portes et balayait l'église, monta dans la chaire et ayant ouvert la Bible, il y lut ces mots « La paix soit avec vous », et quand Jésus eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Évangile de Jean, chapitre 20, versets 19 et 20. « Tous les philosophes, dit-il, les docteurs, les écrivains, se sont appliqués à enseigner comment l'homme peut obtenir la vie éternelle, et ils n'y sont pas parvenus. Je veux maintenant vous le dire. C'est dans tous les siècles la grande question. » Aussi les auditeurs de Luther redoublèrent-ils d'attention. Il y a deux espèces d'œuvres, continua le réformateur. Des œuvres étrangères, ce sont les bonnes. Des œuvres propres, elles sont peu de choses. L'un bâtit une église, l'autre va en pèlerinage à Saint-Jacques ou à Saint-Pierre. Un troisième jeûne, prie, prend le capuchon, va nu-pied. Un autre fait quelque autre chose encore. Toutes ces œuvres ne sont rien et périront, car nos œuvres propres sont sans aucune force. Mais je vais vous dire maintenant quelle est l'œuvre véritable. Dieu a ressuscité un homme, le Seigneur Jésus-Christ, pour qu'il écrase la mort, détruise le péché et ferme les portes de l'enfer. Voilà l'œuvre du salut. Le démon crut qu'il tenait le Seigneur en son pouvoir quand il le vit entre deux brigands souffrant le plus honteux martyr, maudit de Dieu et des hommes. Mais la divinité déploya sa puissance et anéantit la mort, le péché et l'enfer. Christ a vaincu, voilà la grande nouvelle, et nous sommes sauvés par son œuvre et non par les nôtres. Le pape dit tout autre chose, mais je le déclare, la Sainte Mère de Dieu elle-même a été sauvée non par sa virginité, ni par sa maternité, ni par sa pureté ou ses œuvres, mais uniquement par le moyen de la foi et par les œuvres de Dieu. Comme Luther parlait, un bruit soudain se fit entendre. Une des galeries craqua, et l'on crut qu'elle allait céder sous le poids de la foule. Cela causa une grande agitation dans tout l'auditoire. Les uns s'enfuyaient, les autres restaient frappés d'effroi. L'orateur s'arrêta un moment, puis, étendant la main, il s'écria d'une voix forte « Ne craignez rien, il n'y a pas de danger. Le diable cherche ainsi à m'empêcher d'annoncer l'évangile, mais il n'y réussira pas. » À cet ordre, ceux qui s'enfuyaient s'arrêtèrent, étonnés et saisis. L'assemblée se calma, et Luther, sans s'inquiéter des tentatives du diable, continua. « Vous nous parlez beaucoup de la foi, me direz-vous peut-être. Apprenez-nous donc comment on peut l'obtenir. Eh bien, oui, je veux vous l'apprendre. » Notre Seigneur Jésus-Christ dit « La paix soit avec vous, regardez mes mains », c'est-à-dire « Regarde, ô homme, c'est moi seul qui ai ôté ton péché et qui t'ai racheté, et maintenant tu as la paix », dit le Seigneur. « Je n'ai point mangé le fruit de l'arbre », reprit Luther. « Vous ne l'avez pas non plus mangé, mais nous avons reçu le péché qu'Adam nous a transmis et nous l'avons fait. De même, je n'ai point souffert sur la croix. Et vous n'y avez pas non plus souffert, mais Christ a souffert pour nous. Nous sommes justifiés par l'œuvre de Dieu et non par la nôtre. Je suis, dit le Seigneur, ta justice et ta rédemption. Croyons à l'Évangile, croyons à saint Paul et non aux lettres et aux décrétales des papes. Luther, après avoir prêché la foi comme cause de la justification du pécheur, prêche les œuvres comme conséquence et manifestation du salut. « Puisque Dieu nous a sauvés, continue-t-il, ordonnons tellement nos œuvres qu'il y mette son bon plaisir. Es-tu riche, que ton bien soit utile aux pauvres. Es-tu pauvre, que ton service soit utile aux riches. Si ton travail n'est utile qu'à toi-même, le service que tu prétends rendre à Dieu n'est qu'un mensonge. » Pas un mot sur lui dans ce sermon de Luther, point d'allusion aux circonstances où il se trouve. Rien sur Worms, ni sur Charles, ni sur les nonces. Il prêche Christ et Christ seul. Dans ce moment où le monde a les yeux sur lui, il n'a aucune préoccupation de lui-même. C'est la marque d'un véritable serviteur de Dieu. Luther partit d'Erfurt et traversa Gotha, où il prêcha de nouveau. Myconius ajoute qu'au moment où l'on sortait du sermon, le diable détacha du fronton de l'église quelques pierres qui n'avaient pas bougé depuis 200 ans. Le docteur alla coucher dans le couvent des bénédictins à Reinhardsbrunn et se rendit de là à Isenach où il se sentit indisposé. Amsdorff, Jonas, Schurf, tous ses amis en furent effrayés. On le saigna, on lui prodigua des soins empressés. Le schulness de la ville, Jean Oswald, accourut lui-même apportant une eau cordiale. Luther, en ayant bu, s'endormit et les forces que lui donna le repos lui permirent de repartir le lendemain. Partout, les peuples se précipitaient sur ses pas. Son voyage était la marche d'un triomphateur. On contemplait avec émotion cet homme hardi qui allait présenter sa tête à l'empereur et à l'empire. Un concours immense l'entourait. On lui parlait. « Ah !» lui disaient quelques-uns. « Il y a à Worms tant de cardinaux, tant d'évêques. On vous brûlera, on réduira votre corps en cendres, comme on l'a fait de celui de Jean Hus. » Mais rien n'épouvantait le moine. « Quand il ferait un feu, dit-il, qui s'étendit de Worms à Wittenberg et qui s'éleva jusqu'au ciel, je le traverserai au nom du Seigneur, je paraîtrai devant eux, j'entrerai dans la gueule de ce béhémoth, je briserai ses dents et je confesserai le Seigneur Jésus-Christ. » Un jour, comme il venait d'entrer dans une auberge et que la foule se pressait comme de coutume autour de lui, un officier s'avança et lui dit « Êtes-vous l'homme qui a entrepris de réformer la papauté ? Comment y parviendrez-vous ? » « Oui, répondit Luther, Je suis l'homme. Je me repose sur le Dieu Tout-Puissant, dont j'ai devant moi la parole et le commandement. » L'officier, ému, le regarda alors d'un œil plus doux et lui dit « Cher ami, ce que vous dites là est quelque chose. Je suis serviteur de Charles, mais votre maître est plus grand que le mien. Il vous aidera et vous gardera. » Telle était l'impression que produisait Luther. Ses ennemis même étaient frappés à la vue de cette multitude qui l'entourait. Mais c'est sous d'autres couleurs qu'ils ont dépeint ce voyage. Le docteur arriva à Francfort le dimanche 14 avril. Déjà la nouvelle de la marche de Luther était parvenue à Worms. Les amis du pape n'avaient pas cru qu'il obéirait à la citation de l'empereur. Albert, cardinal, archevêque de Mayence, eut tout donné pour l'arrêter sur la route. De nouvelles pratiques furent mises en œuvre pour y parvenir. Luther, arrivé à Francfort, y prit quelques repos, puis il annonça son approche à Spalatin qui se trouvait alors à Worms avec les lecteurs. C'est la seule lettre qu'il ait écrite pendant la route. « J'arrive, lui dit-il, bien que Satan se soit efforcé de m'arrêter dans le chemin par des maladies. Disenac ici, je n'ai cessé de languir, et je suis encore comme je n'ai jamais été. J'apprends que Charles a publié un édit pour m'épouvanter, mais Christ vit, et nous entrerons dans Worms en dépit de toutes les portes de l'enfer et de toutes les puissances de l'air. Préparez donc mon logement. » Le lendemain, Luther alla visiter l'école savante de Guillaume Ness, célèbre géographe de son temps. « Appliquez-vous, dit-il au jeune garçon, à la lecture de la Bible et à la recherche de la vérité. » Puis, posant sa droite sur l'un de ses enfants et sa gauche sur un autre, il prononça une bénédiction sur toute l'école. Si Luther bénissait les enfants, il était l'espérance des vieillards. Une veuve, avancée en âge et servant Dieu, Catherine de Holzhausen, se rendit vers lui et lui dit « Mon père et ma mère m'ont annoncé que Dieu susciterait un homme qui s'opposerait aux vanités papales et qui sauverait la parole de Dieu. J'espère que tu es cet homme-là et je te souhaite pour ton œuvre la grâce et le Saint-Esprit de Dieu. » Ses sentiments furent loin d'être ceux de tout le monde à Francfort. Le doyen de l'église de Notre-Dame, Jean Cochleus, était l'un des hommes les plus dévoués à l'église romaine. En voyant Luther traverser Francfort pour se rendre à Worms, il ne put comprimer ses craintes. Il pensa que l'Église avait besoin de défenseurs dévoués. Personne ne l'avait appelé, il est vrai. N'importe, à peine Luther eut-il quitté la ville, que Cochleus partit aussitôt sur ses traces, prêt, dit-il, à donner sa vie pour défendre l'honneur de l'Église. L'épouvante était grande dans le camp des amis du pape. L'hérésiarque arrivait, chaque journée et chaque heure leur approchait de Worms. S'il y entrait, tout était peut-être perdu. L'archevêque Albert, le confesseur Glapion et tous les politiques qui entouraient l'empereur étaient troublés. Comment empêcher ce moine de venir? L'enlever est chose impossible, car il a le sauf-conduit de Charles. La ruse seule peut l'arrêter. Aussitôt, ces hommes habiles forment le plan suivant. Le confesseur de l'empereur et son grand chambellan, Paul de Harmsdorff, partent en toute hâte de Worms. Ils se dirigent vers le château d'Ebernbourg, à 10 lieues environ de cette ville, où résidait François de Sickingen, ce chevalier qui avait offert un asile à Luther. Bucer, jeune dominicain, chapelain de l'électeur palatin, converti à la doctrine évangélique lors de la dispute de Heidelberg, était alors réfugié dans cette hôtellerie des justes. Le chevalier, qui n'entendait pas grand-chose aux affaires de religion, était facile à tromper, et le caractère de l'ancien chapelain palatin favorisait les desseins du confesseur. En effet, Bucer était pacifique. Distinguant les points fondamentaux des points secondaires, il croyait pouvoir sacrifier ceci à l'unité et la paix. Le chambellan et le confesseur de Charles commencent leur attaque. Ils font comprendre à Sickingen et à Bucer que c'est un effet de Luther s'il se rend à Worms. Il leur déclare que l'empereur est prêt à employer quelques savants à Ebernbourg afin d'y conférer avec le docteur. « C'est sous votre garde, disent-ils au chevalier, que les deux parties se placeront. Nous sommes d'accord avec Luther sur toutes les choses essentielles, disent-ils à Bucer. Il s'agit seulement de quelques points secondaires. Vous nous servirez de médiateurs. » Le chevalier et le docteur sont ébranlés. Le confesseur et le chambellan poursuivent. « Il faut que l'invitation adressée à Luther vienne de vous, disent-ils à Sickingen, et que Bucer en soit le porteur. » On convainc de tout selon leur désir. Que Luther trop crédule vienne seulement à Ebernbourg, son sauf-conduit sera bientôt expiré Et alors, qui pourra le défendre? Luther était arrivé à Oppenheim. Son sauf-conduit n'était plus valable que pour 3 jours. Il voit une troupe de cavaliers qui s'approche, et bientôt il reconnaît à leur tête ce Bucer avec lequel il avait eu à Heidelberg des conversations si intimes. Ces cavaliers appartiennent à François de Sickingen, lui dit Bucer après les premiers épanchements de l'amitié. Il m'envoie vers vous pour vous conduire à son château fort. Le confesseur de l'empereur désire avoir avec vous un entretien. Son influence sur Charles est sans borne. Tout peut s'arranger, mais évitez à Léandre. Jonas, Amsdorf, Schurf ne savent que penser. Bucer insiste, mais Luther n'hésite pas. « Je continue mon chemin, » répond-il à Bucer, « et si le confesseur de l'empereur a quelque chose à me dire, il me trouvera à Worms. Je me rends là où je suis appelé. » Cependant, Spalatin lui-même commençait à se troubler et à craindre. Entouré à Worms des ennemis de la Réformation, il entendait dire qu'on ne devait point respecter le sauf-conduit d'un hérétique. Il s'alarma pour son ami. Au moment où celui-ci approchait de la ville, un messager se présenta et lui dit de la part du chapelain « N'entrez point dans Worms ». Ainsi, son meilleur ami, le confident de l'électeur, Spalatin lui-même. Luther, inébranlable, porte ses regards sur cet envoyé et répond « Allez, et dites à votre maître que quand même il y aurait autant de diables à Worms qu'il y a de tuiles sur les toits, j'y entrerai. » Jamais peut-être Luther n'a été si grand. L'envoyé retourna à Worms et y rapporta cet étonnant message. « J'étais alors intrépide, dit Luther peu de jours avant sa mort. Je ne craignais rien. Dieu peut donner à un homme une telle audace. Je ne sais si à présent j'aurai autant de liberté et de joie. » Quand la cause est bonne, ajoute son disciple Mathésius, le cœur grandit, et il donne du courage et de la force aux évangélistes et aux soldats.